Donc nous continuons les petites déambulations de la bibliothèque en vadrouille et donc nous sommes maintenant en présence de Pascal Cobert qui est rédacteur en chef de la revue L'Alpe à Grenoble et qui nous a fait découvrir ce magnifique lieu, le couvent Sainte-Cécile qui accueille, si je ne dis pas de bêtises, donc à la fois votre journal, votre revue et le siège social des éditions Glénat.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est
ça. Et donc, l'idée de cette petite rubrique, c'est de collecter des conseils de lecture. Et donc, la revue L'Alpe, d'abord peut-être rapidement son historique, puisque vous en êtes donc aujourd'hui le rédacteur en chef. Et puis après, quelques mots sur donc à la fois le numéro 66 consacré aux excentriques et fadas, avec notamment le dossier, moi, qui m'avait interpellé sur Monte Verita. Et puis donc, ce dernier numéro que je découvre, le 68, le sexe de l'Alpe.
Alors, la création de la revue L'Alpe remonte à maintenant un peu plus de 16 ans, 98. C'est une création conjointe entre les éditions Glénat et le musée dauphinois, qui est un grand musée de société installé sur les flancs de la Chartreuse, au-dessus de Grenoble, et qui a voulu se préoccuper dès l'origine de s'intéresser aux hommes des Alpes plutôt qu'aux aspects strictement touristiques, environnementaux, ce qu'on voit en gros dans les autres magazines dédiés au monde alpin. Nous, notre vocation, c'était vraiment de traiter les Alpes sous l'angle des sciences humaines, et en particulier en faisant appel à des spécialistes plutôt qu'à des journalistes, donc aller chercher des géographes, des historiens, des économistes qui nous parlent des Alpes, et pas seulement des Alpes françaises, mais on avait dès l'origine vocation à traiter des Alpes au niveau européen. Donc en allant en Autriche, en Italie, en Slovénie, pour voir un peu ce qui se passe là-bas et comparer avec ce qui se passe chez nous, quoi.
D'accord. Et alors justement, donc, la périodicité donc, de la revue, puisque là, il y a déjà, depuis donc, le numéro que j'ai reçu, deux autres numéros. Donc il y a quand même un rythme de production assez conséquent, j'ai l'impression.
Quatre numéros par an, ce qui est le minimum pour avoir un statut de journal, entre guillemets, puisque l'Alpe est une revue qui a une commission paritaire, donc qui est assimilée à un vrai journal. Donc il faut en faire au moins quatre par an. Je pense qu'on ne pourrait pas en faire davantage parce que l'équipe est toute petite. Hein, c'est deux mi-temps, deux personnes à mi-temps. Moi-même et mon éditrice, là, qui vient d'arriver, puisque ma rédactrice en chef adjointe est partie à la retraite il y a quelques mois. Donc on n'aurait de toute façon pas l'occasion d'en faire davantage. Et puis en même temps, le fait qu'on traite, nous, les sujets sous un angle un peu thématique, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir à chaque fois un gros dossier dans chaque numéro sur un thème précis. Donc ce numéro qui est en vente en ce moment, numéro de printemps 2015, est un numéro consacré à l'érotisme dans le monde alpin, mais on a eu des numéros, donc ce que vous expliquez tout à l'heure, les excentriques alpins, on a eu des numéros sur les fleurs, sur les fromages, sur les femmes, sur des régions aussi, sur le parc des Écrins par exemple, ou sur le parc national du Mercantour. On aborde comme ça des thèmes qui sont pas non plus, on peut pas les inventer, donc si on en fait 4 par an, je pense que si on en faisait 6 par an, on aurait assez rapidement épuisé les thèmes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas trop de difficultés à trouver de nouveaux thèmes pour les numéros à venir.
D'accord. Alors l'ultime question là, à l'issue de ce petit entretien, est-ce que ça a toujours été, Glénat a toujours été un compagnon de la revue ou c'est venu sur le tard diffusion?
Non, Glénat est à l'origine du projet. À l'origine du projet, en fait, il y a André Pitt, le fondateur, qui était hélas décédé en 2006 et qui a vu cette idée, mais il y a déjà fort longtemps. Et puis finalement, les magazines spécialisés tourisme s'étaient lancés entre-temps, il l'avait laissé sous le coude. Puis on l'a repris en 98. Jacques Glénat était à l'origine, et je dis Jacques Glénat parce que c'est le patron fondateur des éditions qui y croyait vraiment lui-même. Et puis Jean Guibal, patron du musée dauphinois, qui se sont associés. Alors le musée dauphinois pour la partie, je dirais, jus de crâne, enfin la partie contenu, réseau, puisque c'est pas... Moi je viens du monde de la presse, et les réseaux dans le domaine universitaire, par exemple, pour trouver les bons chercheurs qui travaillent sur des domaines précis, je les avais pas forcément. Donc ça vient du réseau Jean Guibal, musée dauphinois, voilà, contenu. Et puis nous, édition Glénat, donc moi, je suis employé des éditions Glénat pour tout ce qui concerne les aspects production, maquette, diffusion, direction artistique, et puis commercialisation, évidemment, parce que la revue n'existe que parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui nous suivent.
Parfait. Merci pour ce petit échange là, impromptu. On va tâcher donc de faire connaître, peut-être, grâce à ce petit entretien, cette revue en dehors des frontières alpines, puisque nous sommes installés en Franche-Comté.
Oui, mais je sais que nous avons des lecteurs ailleurs, d'ailleurs, puisque comme la revue fonctionne essentiellement par abonnement, on a des lecteurs jusqu'en Nouvelle-Zélande. Je sais qu'on en a en Franche-Comté. On a en particulier travaillé avec un photographe comtois qui s'appelle Gérard Benoît Alaguillaume, qui fait des installations avec des bidons de lait qui est installé, je crois, du côté de Moutte, par là, dans le Gironde.
Très bien. Merci encore à vous.
De rien.